Cours M4 MA001, Histoire culturelle de l'Occident contemporain, séance 9, enregistrement numéro 2. Le paradigme crisique et la critique du modèle occidental de développement dans les organisations internationales, UNESCO, Conseil de l'Europe. On retrouve les attendus crisiques, le discours de crise dans le discours tenu à l'occasion des grands rassemblements ou dans les rapports produits dans le cadre du fonctionnement de l'UNESCO comme du Conseil de l'Europe. C'est par un hasard, évidemment, puisque ceux qui rédigent ces rapports ou ces discours sont bien souvent ces intellectuels dont je parlais auparavant, qui participent au séminaire, au colloque Arc-Senan, etc. Donc, ce sont les mêmes experts, finalement, que l'on retrouve dans ces organisations internationales, qui pratiquent également des formes de prospective ou de futurologie, comme on l'appelle d'ailleurs plus souvent à l'UNESCO. L'UNESCO qui se met à l'heure de la futurologie au début des années 70, dans un numéro du courrier de l'UNESCO qui date de 1971, la futurologie est décrite comme à la mode, une vogue soudaine à la progression spectaculaire, devenu un vaste mouvement de recherche en quelques années. Donc l'UNESCO se met elle-même à cette discipline ou à cette démarche de recherche ou à cette méthode nouvelle. Elle le fait notamment par des experts donc, qui vont travailler et rendre des rapports commandés par l'UNESCO. Elle le fait aussi dans le cadre des grands colloques, des grands rassemblements qui vont scander les années 70 et les années 80. Je pense notamment, alors je commence par elle, à la conférence de Venise 1970, donc qui est la première conférence mondiale des responsables chargés de la culture, donc j'allais dire ministres, mais il n'y a pas forcément des ministres de la culture dans tous les pays. D'ailleurs, à cette époque-là, il y en a en réalité très peu, ce sont plutôt des gens qui sont à la tête d'administrations chargées d'éducation et dans lesquelles il y a des missions liées à la politique culturelle, mais il y a donc assez peu de ministres de la culture proprement dit qui se réunissent donc à Venise pour cette grande conférence internationale où on insiste sur les vastes perspectives nouvelles ouvertes à l'action culturelle, ouvertes par l'extension des loisirs, l'élévation du niveau d'éducation dans les pays avancés. Mais on souligne également, lors de cette conférence de Venise, donc, organisée par l'UNESCO, sur les coûts et les menaces dont ces évolutions sont porteuses. Dégradation des sites sous l'effet du tourisme de masse, déséquilibre entre villes et campagnes, mauvais état du cadre de la vie quotidienne, crise de la jeunesse, danger des nouvelles technologies de communication, prédominance d'une culture commerciale et cosmopolite. C'est l'expression qui est employée, il y a une phrase comme ça dans les actes de la conférence de Venise, hein, culture commerciale et cosmopolite. Et donc le terme cosmopolite est ici clairement pris en mauvaise part, synonyme de culture inauthentique, étrangère. Et en fait, même si on ne le dit pas comme cela, mais c'est assez clair à l'esprit des gens qui participent à cette conférence, c'est la culture, disons, d'origine états-unienne qui est ici visée. 2 ans plus tard, 1972, à Helsinki, j'ai évoqué cette conférence de Helsinki à propos du séminaire d'Arc-Senan qui la préparait. Donc Helsinki, 2 ans plus tard, donc 72, la formule, une formule équivoque également, est employée celle de pollution culturelle. Pollution culturelle employée pour désigner les dangers qui guetteraient tous les pays. Transformation des biens culturels en objets de consommation, aliénation de l'artiste, représentation excessive de la violence dans les médias de masse. On insiste à l'occasion de cette conférence d'Helsinki. Alors, conférence d'Helsinki, je ne l'ai pas assez précisé, ne regroupe cette fois que les ministres ou responsables en charge de la culture au niveau européen. Alors plus largement qu'au niveau de la communauté économique européenne, bien sûr, c'est toute l'Europe qui est concernée, mais ce n'est pas comme Venise, une conférence mondiale. C'est vraiment une conférence centrée sur l'Europe. On y insiste également sur les déséquilibres nés de la croissance qui touchent l'essence même de la civilisation, avec, alors, dans la description qui est faite, hein, des individus frustrés d'expression, transformés en consommateurs passifs des machines audiovisuelles, une jeunesse privée de sens, l'obsolescence des systèmes de formation, le risque d'un gaspillage des loisirs et de la déperdition des énergies dans des activités stériles et le plus souvent nuisibles à la vie sociale. Donc quand même un tableau assez noir, hein, assez sombre de la crise que traversent les sociétés. Vous voyez, 2 ans avant le choc pétrolier, donc on est dans des sociétés qui sont encore des sociétés prospères, en croissance économique, mais qui, depuis quelques années, sont en proie au doute sur, finalement, les orientations, le bien fondé de cette croissance. Conférence suivante des ministres européens en charge de la culture, 1976 à Oslo. Alors, la crise est passée par là, mais c'est moins la crise économique qui est ici analysée que le contraste entre, et on retrouve finalement des thèmes que l'on trouvait dans les conférences précédentes, hein, le contraste entre une consommation de masse des produits culturels et l'appréciation esthétique des arts par une élite. Donc le fossé entre une culture de masse qui serait consommée par la majorité de la population et une culture élitiste qui serait l'apanage précisément des élites sociales, et donc une séparation entre les deux. Avec aussi la diffusion d'un goût uniforme, d'attitude passive envers la culture qui est notée ou redoutée. Conférence suivante, Athènes 1978. La principale accusée, c'est la révolution technologique qui remettrait en cause la notion traditionnelle de culture, l'homme risquant de se retrouver dans une situation d'esclave, hein, c'est l'expression qui est employée, esclave des nouvelles machines à communiquer. Et de la même façon, lors de la grande conférence de Mexico en 1982, alors c'est la deuxième grande conférence mondiale sur la culture, on souligne à Mexico l'impact négatif des moyens de communication de masse, l'essor d'une culture d'évasion, évasion étant péjorativement connotée ici, avec les risques de passivité, d'uniformisation, d'affaiblissement des pratiques culturelles, sous-entendu des vraies pratiques culturelles, d'une culture authentique, qu'entraînerait cette évolution et cette domination des moyens de communication de masse. Donc le ton des rapports, le ton des conférences d'une part, mais aussi le ton des rapports commandés par l'UNESCO à un certain nombre d'experts à la même époque ou au cours de la décennie 80, ce ton est souvent très alarmiste. Je pense à un expert français qui produit plusieurs rapports pour l'UNESCO, Claude Fabrizio, F-A-B-R-I-Z-I-O, qui dans 2 rapports publiés en 1980 évoque la puissance de manipulation des machines à rêve. Il reprend l'expression de Malraux pour désigner les médias de masse, en particulier le cinéma, mais ici c'est plutôt la télévision qui est pointée du doigt, et l'aliénation culturelle qui en résulterait. Certes, concède-t-il dans ses rapports de 1980, ces produits de la culture de masse répondent à certaines aspirations du public, à ces pulsions fondamentales du sexe et du sang, là aussi on a l'impression de lire Malraux, qu'on ne peut pas ne pas mentionner, mais elles privent ceux qui les consomment de tout rapport à la culture authentique. Il y a toujours cette opposition entre une fausse culture, une culture des médias de masse, une culture aliénante, et une vraie culture qui serait une culture de la pratique, finalement, culturelle. Lui aussi cite les impasses de la croissance économique et appelle à un développement plus qualitatif. Ça devient une idée, finalement, assez banale, hein, dans ces années, début des années 80. Alors que dans le passé, un passé qui n'est jamais, d'ailleurs, daté avec précision, la croissance était une sorte de développement endogène. Aujourd'hui, mais là encore, on ne sait pas exactement de quelle époque il parle, cette croissance a pris un aspect quantitatif et a cessé d'être uniquement orientée vers l'épanouissement de l'individu, provoquant la perte de repères, de sens et d'identité des individus. C'est évidemment le grand problème de ces discours déploratoires et passéistes, d'une façon, c'est qu'ils renvoient à un âge d'or, ou en tout cas à une période précédente où les choses auraient été bien meilleures, où le rapport à la culture aurait été plus authentique, etc. Mais sans que l'on sache véritablement de quelle époque on parle, et d'une façon, heureusement, enfin, c'est assez logique, puisque s'ils nommaient véritablement une époque, là, il serait évidemment facile. Pour n'importe quelle personne, même pas forcément historienne, de montrer que à cette époque-là aussi, il y avait des formes d'aliénation, d'exploitation, de domination, etc. En fait, le discours passéiste ou déploratoire se donne souvent la commodité, finalement, de renvoyer à une époque qui, en réalité, n'a jamais existé. D'une autre façon, si j'allais jusqu'au bout de ce raisonnement, je renverrais à Rousseau qui parle d'un âge d'or, mais précisément, comme l'ont remarqué tous les commentateurs exégètes de Rousseau, cet âge d'or n'est jamais véritablement identifié. C'est au fond une fable qui sert avant tout à dénoncer le temps présent. Alors, un autre expert qui s'exprime pour l'UNESCO, qui rend des travaux commandés par l'UNESCO dans ces années. Alors lui, c'est plutôt les années 80, si je ne me trompe pas. Oui, 82, dans un rapport qui est intitulé La dimension culturelle du développement. C'est un expert qui s'appelle Pierre Pascalon, hein, ça s'écrit Pascalon. Pierre Pascalon, qui est un économiste. Mais qui ensuite fera une carrière politique puisqu'il sera député et maire classé à droite de l'échiquier politique. Donc Pierre Pascalon, qui n'est pas un homme de gauche ni un tiers-mondiste acharné, fait pourtant à peu près à la même époque, et donc en 1982, pour l'UNESCO, le procès de la croissance et du modèle occidental de développement dans sa version, en tout cas, libérale ou capitaliste. Évidemment, là aussi, un point aveugle de beaucoup de ses travaux, c'est que il dénonce un modèle occidental de développement sans le plus souvent mettre en parallèle et en accusation aussi le modèle socialiste ou communiste de développement qui pourtant fait aussi à la même époque beaucoup de ravages sur le plan environnemental, sur le plan social, etc. Donc dans son rapport de 82, hein, la dimension culturelle du développement, Pascalon décrit des individus déracinés, réduits à des consommateurs manipulés, des inégalités qui persistent ou s'aggravent dans un monde obsédé par la rentabilité immédiate, l'aliénation par le travail ou par les loisirs qui sont décrits comme un simple moyen de tuer l'ennui que suscite l'ouvrage par une forme de labeur préfabriquée et sans portée ou de divertissement sans profondeur. Donc une aliénation totale, construisant une société de masse atomisée où s'accumulent les antidividendes, c'est l'expression qu'il emploie, je la trouve intéressante, les antidividendes du progrès, pollution, encombrement, etc. Donc vous voyez, là aussi, une description très, très sombre du temps présent, un diagnostic d'époque très sévère qui incite les gouvernement et les organisations internationales à prendre une autre orientation, à orienter différemment les politiques de développement et notamment sur la dimension culturelle. C'est dans le même esprit qu'en 1985, un autre rapport est rédigé par Paul-Marc-Henri et Basile Cossu. Henri, qui est ambassadeur de France, ancien président du Centre de développement de l'OCDE, et Basile Cossu, qui est, lui, un philosophe béninois, ancien directeur général de l'Institut culturel africain à Dakar. Donc ces deux auteurs écrivent à quatre mains un rapport qu'ils rendent à l'UNESCO en 1985, hein, sous le titre, d'ailleurs c'est le même titre que Pascal Long, La dimension culturelle du développement. Et ils écrivent donc dans ce rapport que les notions même de croissance, de développement et de progrès font l'objet d'une critique globale et radicale. La culture dite occidentale en tant que culture dominante est remise en cause. Et ils dénoncent à leur tour le technicisme, l'individualisme forcené, la rationalité étroite à l'œuvre dans ce modèle dont ils critiquent par ailleurs l'héritage historique dans ses relations avec le reste du monde. Un héritage historique fait, selon eux, d'agressions culturelles, de rapports de conquête et de domination. Et eux aussi donc mettent en cause ce progrès, ce soi-disant progrès, qui en fait consiste essentiellement en l'accumulation infinie des biens, mais aussi en la destruction des ressources qui, elles, ne sont pas infinies. Ils évoquent le plafond écologique atteint par ce modèle, dans lequel ils voient une aberration dans l'histoire de l'humanité que ne peuvent imiter les autres sociétés, sauf à détruire la Terre de manière accélérée. Vous voyez, c'est intéressant, hein, toujours ce lien qu'ils font entre finalement une lecture culturaliste de l'évolution humaine, de l'histoire humaine, et un diagnostic très pessimiste sur la capacité qu'a le modèle de développement occidental de se répandre et de se maintenir dans l'avenir proche. Autre et dernier rapport que je voulais citer, rapport donc pour l'UNESCO d'un historien et anthropologue indien, Sorab Dubey, je ne sais pas comment on prononce, Dubey, qui se montre lui aussi très critique. Alors lui, c'est pas un rapport, je me trompais, c'est une intervention lors d'une rencontre internationale d'experts qui se tient à l'UNESCO en 1987. Et il déclare notamment que la poursuite effrénée de la richesse, non articulée à des objectifs sociaux plus larges, peut conduire à un hédonisme grossier et au nihilisme culturel. Alors, le ton est un peu moins déploratoire ou accusatoire, mais au fond tout aussi alarmiste au sein du Conseil de l'Europe. Donc c'est la deuxième organisation que je voudrais aborder. Lors de la conférence de Luxembourg, qui est la conférence des ministres en charge de la culture en 1981, qui est la troisième conférence en fait, des ministres européens chargés des affaires culturelles, Franz Karasek, Karaseck, qui est à l'époque secrétaire général du Conseil de l'Europe, Karasek donc, parle d'une crise de civilisation, encore, qui est pour une large part une crise culturelle. Il souligne à son tour les excès de l'économisme et de la société de consommation. Il est temps, poursuit-il, que l'intelligence du cœur remplace le rationalisme fonctionnel. Même son de cloche, 2 ans plus tard, dans une note destinée au Conseil de coopération culturelle du Conseil de l'Europe, signé par Gerhard Ebrich, qui est un haut fonctionnaire du Conseil de l'Europe. Ebrich, ça s'écrit H-E-R-B-E-R-I-C-H-S, Erberich. Une note intitulée Une politique culturelle pour temps de crise. Je la cite longuement, car cette note s'inspire beaucoup de la pensée d'Augustin Girard et elle ramasse un certain nombre de ce qu'il faut appeler, ce que j'appellerais volontiers, les lieux communs du paradigme crisique, c'est-à-dire les lieux communs du discours sur la crise des années 70-80. Donc je cite cette note de Gerhard Ebrich. On parlait de malaise dans la civilisation. La formule renvoie évidemment au titre de l'ouvrage de Sigmund Freud, hein, publié en 1929, Crise ou malaise dans la culture ou malaise dans la civilisation. Selon la traduction, il y a deux traductions possibles pour ce livre de Freud. On parlait donc de malaise dans la civilisation. Voici que cette même civilisation est en train de faire l'expérience de quelque chose qui est manifestement une crise globale et permanente. Elle affecte les institutions et les structures, les modes de vie et de pensée, les croyances et les valeurs. Dans de nombreux domaines, elle a pris un caractère quasi institutionnel, chronique et aiguë à la fois. Dans les relations internationales, par exemple, ou dans de larges secteurs de l'économie, l'emploi, par exemple, ou la monnaie, ou l'énergie, ou les matières premières. Cette crise, poursuit-il, n'est pas l'effet du hasard, elle n'est pas un incident de parcours. Elle surgit des fondements mêmes de nos sociétés. Elle s'inscrit dans une logique, celle des contraintes, toutes endogènes, d'une civilisation qui, en optant inconditionnellement pour la science et la technologie, s'est condamnée au développement, à la croissance, à un progrès de type linéaire. Pour une telle civilisation, il n'y a pas de retour. Elle ne peut qu'aller de l'avant. Dans ce sens, la crise lui est congénitale, inhérente à la manière spécifique dont elle est organisée et fonctionne. Bien plus, on pourrait dire que la crise est la condition de son fonctionnement, qu'elle est sa loi et son principe. Donc là encore, se trouvent soulignées les impasses de la croissance sans limite, de la science, de l'économie et de la technique, la faillite de la raison instrumentale, les conséquences néfastes de l'ivresse du pouvoir, de la maîtrise sur les choses et les êtres, la coupure avec la nature et l'histoire. Et Ehrlich, d'ailleurs, convoque nombre de références intellectuelles à l'appui de sa démonstration. Il cite notamment les philosophes Jaspers, Heidegger, Horkheimer, Marcuse, Camus, Kant, qui donc tous à un moment donné ont critiqué précisément la façon, cette illusion, ce mythe du progrès infini. On pourrait multiplier hein, les citations du même genre. Je vais plutôt essayer de les synthétiser, de les interpréter. Première chose qui frappe à la lecture de cette littérature, c'est son pessimisme foncier. On insiste beaucoup plus sur les menaces que sur les chances que recèlent les temps nouveaux. Alors, on le fait pour des raisons tactiques ou rhétoriques, hein, pour mieux insister sur l'importance des problèmes et l'urgence qu'il y a à y remédier, mais cela renvoie aussi à une vision du monde assez communément partagée, à un moment historique qui est celui où le monde industrialisé, occidental et européen semble parvenu à la fin d'un cycle. Le modèle économique et social qui prévalait depuis la Seconde Guerre mondiale donne des signes d'essoufflement dans ces années, à partir des années 60, et on s'en aperçoit véritablement à partir des années 70. La reconstruction d'abord, la croissance ensuite, ont certes objectivement amélioré les conditions de vie de la majorité de la population de ces pays au moins, mais au prix de graves déséquilibres, notamment environnementaux et sociaux, et en libérant, voire en créant des désirs, des revendications, des contestations, notamment du fait de l'élévation généralisée du niveau d'éducation, qui n'avait jusque-là guère eu droit de cité dans les sociétés de la première et la deuxième industrialisation. Parmi ces revendications, donc, qui s'étaient fait jour autour de 68 et dont les années 70 vont reprendre la formulation, hein, revendication d'un travail plus autonome, plus épanouissement, d'un cadre de vie plus agréable, d'une émancipation vis-à-vis des tutelles traditionnelles, de mœurs plus libres, de normes moins contraignantes. Les révoltes étudiantes, finalement, ont montré, au moins dans ce qu'on appelle le premier monde, le monde industrialisé occidental, l'impatience du changement et la volonté de passer d'un progrès quantitatif à un progrès qualitatif. Et c'est cela, au fond, qu'enregistrent ces sismographes de l'esprit du temps que sont les experts en sciences sociales. Ils le font avec leur savoir, mais aussi avec leurs préjugés, leurs préventions, en particulier à l'égard de cette culture de masse que la plupart détestent, au moins théoriquement, parfois ils la pratiquent de façon plus ou moins honteuse, mais ils la jugent généralement aliénante, nivelante, abêtissante, une culture de masse condamnée sans appel, mais aussi sans examen au fond, ni souci de nuance, dans une vision à la fois catastrophiste et élitiste, propre à des hommes et femmes, et plus généralement des hommes, de l'écrit ou de l'art, qu'inquiète la désertion des masses. Une vision élitiste, renvoyant à une culture savante, qui frappe d'indignité l'ensemble des productions de grande diffusion, et cela, enfin, ce n'est pas complètement nouveau pour le coup, ça ne date pas des années 70, hein, du XXe siècle, dès l'apparition de ces médias de masse, que ce soit la presse populaire, que ce soit le cinéma, que ce soit la télévision, aujourd'hui les jeux vidéo, il y a toujours ce discours plus ou moins fondé. Je ne dis pas qu'il est infondé, mais disons qu'il est un peu suspect dans sa... dans son jugement sans nuance et sur, sur ces, sur cette, sur ces productions de grande diffusion vouées essentiellement au divertissement. Un discours qui donc s'est alimenté au fil des innovations technologiques. Qui parfois a reculé, je pense notamment au cinéma. Enfin, autant le jugement était globalement négatif parmi les intellectuels dans les années 20 ou 30 encore, autant il est devenu plutôt positif dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a eu finalement, enfin, il y a eu ce mouvement d'artification, ce mouvement de légitimation qui a saisi l'un après l'autre, les genres et les modes d'expression, ce qui était autrefois considéré comme sous-culturel, paraculturel, infraculturel, est de plus en plus intégré comme faisant partie de la culture, mais en quelque sorte, ce discours se transporte d'une forme d'expression à une autre, et toujours avec cette idée de considérer, enfin de souligner combien ces médias de masse, cette culture de divertissement, cette culture de masse représentent donc un danger pour la société dans son ensemble. La décennie 70 est typique finalement, enfin elle représente une étape dans cette évolution et ces experts sont typiques d'un milieu et d'un moment où le monde intellectuel oscille entre deux formes de reconnaissance de ces nouvelles formes culturelles, entre le constat de leur victoire, de fait, et le refus finalement de leur victoire en droit. C'est-à-dire que autant les experts constatent effectivement que ces médias de masse sont devenus aujourd'hui dominants, autant pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, ils en refusent finalement. Ils en refusent refusent d'admettre finalement cette victoire, ou en tout cas ils la dénoncent comme étant dangereuse. On remarquera aussi dans cette littérature, dans ces rapports, dans ces discours, dans ces colloques des années 70-80, un imaginaire volontiers technophobe, une sensibilité écologiste, un discours tiers-mondiste, c'est assez évident notamment dans les textes de l'UNESCO. Et une articulation du psychologique et du sociologique, une confluence de ce que Boltanski et Capello, dans un livre qui date des années 90, avaient appelé la critique sociale et la critique artiste de la société industrielle, ou encore la rencontre entre la critique des conditions objectives de vie et la critique culturelle d'une modernité nivelée, nivelante, massifiée. L'enchevêtrement de ces divers niveaux d'analyse permet à un même mot, la crise, de désigner aussi bien les mutations du travail ou de l'habitat que celles de l'art ou de l'éthique, un malaise dans la culture autant qu'un bouleversement économique. La crise, au fond, c'est l'autre nom du changement, mais un changement mal accepté et qui fait peur. La plasticité du concept de crise explique la facilité de son réemploi dans les années 80 et 90, et l'apparente continuité du discours de part et d'autre de la grande faille économique et idéologique de la deuxième moitié des années 70, sur laquelle je reviendrai dans une dernière séance. Le thème de la crise durable, non conjoncturelle, propre au fonctionnement même de la civilisation occidentale, que l'on trouvait, je vous rappelle, dans le texte de Herberich, mais aussi dans bien d'autres de la même époque, ce thème de la crise durable permet de regrouper sous une même dénomination, des moments et des facteurs assez hétéroclites au fond, et d'en faire autant d'aspects d'un processus unique de longue durée. La crise économique, pour ces experts, n'est qu'un aspect relativement tardif et mineur d'une crise de bien plus grande ampleur qui touche tous les aspects du modèle de civilisation occidentale, dans une déploration, mais aussi une mise en accusation qui s'apparente finalement à ce que Bruckner appelait le sanglot de l'homme blanc, pour parler de cette tendance à la contrition qui s'empare des esprits occidentaux à partir des années 60. Au-delà, c'est toute la modernité qui se définit comme une immense ère de transition, difficilement définissable entre les ruines d'un passé à peine encore percevable et l'horizon d'un ordre sociopolitique futur, tout juste imaginable. Pour autant, si le pessimisme face au progrès est une constante de la conscience moderne, son triomphe à partir des années 70 à travers le concept de crise culturelle mérite d'être questionné. Le diagnostic de crise généralisée du sens, du savoir, de la raison que font les élites occidentales et aussi d'ailleurs d'autres pays au tournant des années 70 présente cette crise comme une crise des limites qui anticipe la contestation du développement, du modèle de développement que l'on s'efforce de mettre en place dans le tiers-monde. Face aux impasses du développement économique, la culture apparaît de manière un peu contradictoire comme ce qui à la fois marque la résistance au changement et ce qui permettra de la lever après avoir réorienté ce changement dans une meilleure direction. Ce qu'on a pu appeler une thérapie culturelle du progrès, la culture pour sortir de la crise. Et la crise va se trouver alors impliquée dans une problématique plus large liée au développement généralisé. Donc, toute cette problématique de la dimension culturelle de développement qu'on retrouve dans beaucoup de rapports des années 80, notamment de l'UNESCO, c'est précisément cette manière que vont avoir les experts d'essayer de réorienter les modèles de développement vers une prise en compte des cultures, notamment des cultures locales, des cultures des populations concernées par le développement. Alors pour finir, en guise de conclusion, je ferai donc ce pas de côté que j'avais annoncé en direction d'une œuvre assez particulière, assez atypique, qui est une bande dessinée. Une bande dessinée intitulée L'an 01. C'est une bande dessinée qui est publiée à partir de 1970 sous forme de série dans la revue Politique Hebdo, puis dans Charlie Hebdo, et qui sera éditée en album en 1972 avant d'être rééditée beaucoup plus tardivement en 2014 aux éditions de l'Association, qui est une bonne maison d'édition. De ce qu'on appelle parfois la bande dessinée d'auteur. Entre-temps, elle aura été également adaptée en film, puisque en 1973, Jacques Doyon va tirer un film de cette bande dessinée, GB va d'ailleurs, l'auteur de la bande dessinée va collaborer à ce film, ainsi qu'Alain Resnais, Jean Rouch. Et alors, c'est un film assez étonnant, vous pouvez d'ailleurs retrouver facilement sur Internet. On y voit les débuts d'un certain nombre d'acteurs, notamment de membres de la troupe du Splendide. Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot font leurs premiers pas dans ce film. On y trouve également, de manière encore plus étonnante, des gens comme Coluche, comme Jacques Higelin, comme Gottlieb, le dessinateur Gottlieb en gardien de prison. C'est assez étonnant. Et donc c'est une adaptation plus ou moins fidèle de ces planches de bande dessinée, écrites, donc dessinées, rédigées par un dessinateur qui s'appelle GB, j'aurais dû donner son nom plus tôt, GB de son vrai nom Georges Blondeau, il signe en fait de ses initiales, enfin ça s'écrit GEBE, qui s'était fait connaître auparavant en publiant des albums antimilitaristes et anarchisants, mais L'an 01 a porté beaucoup plus large. Et c'est ce qui en fait, me semble-t-il, tout l'intérêt. Le critique Patrick Gaumer, Gaumer, définit cette série comme un pamphlet philosophique ou une utopie écologiste. Alors, l'idée, c'est que, à un moment donné, une partie importante de la population, alors, comment ça se déclenche, c'est un peu mystérieux, mais c'est une génération spontanée en quelque sorte. Va décider de s'arrêter. On arrête tout, on réfléchit, dit GB, et c'est pas triste. Donc, voilà, les gens arrêtent de travailler, stoppent les machines, arrête donc d'alimenter le système, et au lieu donc d'aller travailler, eh bien, vont soit lire des livres qu'ils n'avaient pas eu le temps de lire, soit aller à la rencontre de leurs voisins. Bon, il y a toute une série d'activités en fait qui relèvent du temps libre, qui vont être faites au lieu donc de continuer à faire fonctionner le système. Et c'est l'occasion, du coup, cet arrêt est l'occasion de réfléchir à une nouvelle organisation de la société qui correspondrait réellement aux besoins. Non plus, alors, vous voyez, on est bien toujours dans cette idée de stopper finalement cette course infinie vers l'accumulation des biens, vers cette croissance quantitative qui n'a pas de sens et qui détruit tout, d'en finir avec cette course folle, de s'arrêter une bonne fois et de réfléchir vraiment sur une forme donc plus qualitative de progrès. Je cite GB, hein, et si un jour on mettait notre réveil à 5 heures du matin, juste pour rire, pour faire comme si on était avant. On se marrerait tellement qu'on aurait une envie folle de faire l'amour, et si plutôt que de prendre le même train tous les matins, on décidait de prendre le suivant, voire de ne plus le prendre du tout. Si on stoppait les machines pour prendre le temps de lire Platon, on discuterait, voir où on en est, on imaginerait, avec calme et liberté, quelle forme on veut donner à la suite des événements. Voilà le programme de l'an 01. On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Donc c'est une bande dessinée finalement. Oui, alors on parlait d'utopie. C'est l'utopie d'une table rase festive, d'un nouveau départ, d'une ère nouvelle, contre le productivisme et ses ravages, contre la misère sexuelle, contre la société autoritaire. Une ère nouvelle où ne seraient conservées que les productions strictement nécessaires, comme l'eau ou l'électricité. Et où les rapports entre les gens, entre les vieux et les jeunes, entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, seraient entièrement repensés. Donc, abolition des hiérarchies, abolition de la propriété, abolition du travail aliénant, abolition aussi du divertissement aliénant, de la justice comme contrainte en faveur d'une justice qui serait plutôt une justice d'éducation, liberté, liberté d'instruction, de création, de circulation, de plaisir, une révolution donc sans violence où tout est à inventer. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette bande dessinée, donc qui se présente comme un manifeste politique, hein, a été également un lieu d'échange, puisque GB, assez vite, d'ailleurs, les premières planches sont publiées dans Politique Hebdo, je l'ai dit, mais assez vite, en fait, ces planches, et puis surtout le film qui va être réalisé avec Doyon, en appellent à une forme de création collective, de création collaborative, où les lecteurs sont appelés comment dirais-je, à faire des suggestions, à envoyer des idées. Et donc c'est un processus en fait collaboratif qui se met en place, un laboratoire autant politique que graphique, avec toute une série de scènes donc plus ou moins loufoques sur un monde qui tournerait autrement. Donc voilà, c'est intéressant. Alors cette bande dessinée a été relativement confidentielle quand elle est sortie, mais le film a assez bien marché. Le film a pas mal tourné au moment de sa sortie. Et d'ailleurs, il va être accompagné. Il va y avoir une tournée de l'équipe du film dans toute la France. Un film qui fera quand même 500 000 entrées, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et là aussi, vous pouvez retrouver donc ce film sur Internet. Il y a également donc cette réédition dont j'ai parlé aux éditions de l'association comporte un DVD qui permet de retrouver l'intégralité du film. Il y a making-of tout à fait intéressant. Voilà, donc j'arrêterai là, mais je mettrai évidemment quelques planches tirées de cette bande dessinée parmi les documents qui accompagneront les enregistrements que je vais poster sur l'ENT et sur le blog. Ça me semblait intéressant, encore une fois, de finir par cette bande dessinée, d'une part en ce qu'elle est représentative, en ce qu'elle est typique de cette effervescence intellectuelle des années 70, et cette volonté un peu désespérée de penser à un autre modèle de société, et en même temps par les échos assez étonnants, je trouve, qu'elle génère par rapport à notre temps présent et par rapport à notre situation présente, hein, cette idée d'avoir un temps comme ça, d'une société arrêtée, et un temps qui nous permettrait de réfléchir à ce qui pourrait succéder à ce temps, à un modèle de société nouveau. Ça me semble assez intéressant, assez suggestif. Alors évidemment, on est dans un cadre, dans un contexte totalement différent, puisque là, JB imaginait finalement une société qui s'arrêtait volontairement, non pas sous la menace ou sous l'injonction d'une crise sanitaire, mais néanmoins cette idée, encore une fois, d'un temps qui s'arrête et d'un temps rendu disponible pour la réflexion, eh bien ça peut, je pense, nous inspirer. En tout cas, c'est mon espoir. Voilà, j'arrête ici cet enregistrement et cette séance 9. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je consacrerai la dernière séance 10, alors un peu dans la continuité d'ailleurs de celle-ci, à la remise en cause d'un certain nombre de paradigmes intellectuels entre les années 70 et les années 80, notamment l'effacement des références, de la référence marxiste, mais aussi du structuralisme, de la psychanalyse, enfin toute une série de références qui avaient dominé les années 60-70 vont non pas disparaître, mais être relativisées, marginalisées dans les années 80, qui voient revenir en force toute une série de thèmes, de figures, de concepts qui avaient été eux aussi marginalisés dans les années donc 60-70. Donc, ils font un retour en force, notamment la figure de l'acteur, du sujet, de l'individu, de la morale, etc. Donc, c'est tout ça que j'essaierai de décrire, à la fois donc dans le monde, je dirais, strictement intellectuel, philosophique notamment, mais aussi dans les mondes de l'art, avec notamment aussi ce qu'on appelle le postmodernisme avec d'autres moments, enfin avec d'autres mouvements caractérisés ces années 80. Donc c'est cela qui fera l'objet de ma dernière séance. À bientôt donc.